Et bienvenue à cette nouvelle émission des Héros Anonymes où j'ai toujours le plaisir de vous présenter et de mettre en lumière deux organismes et on va parler de la rétine aujourd'hui ou du moins d'une partie liée à tout ça. On va découvrir, je vais vous avouer que j'ai découvert la macula qui est une partie du corps que j'ignorais, dont j'ignorais l'existence et pour le ce faire, on va le faire avec Pierre Brisebois, président et fondateur de la fondation DMLA. Bonjour, M. Brisebois.
Bien, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Merci de prendre le temps. Puis, je disais, ça tombe bien parce que la mission de votre organisme, c'est de faire connaître la DMLA.
Absolument, oui.
Donc, avant de parler de la fondation, parlons de la situation. La DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Ouais.
Je ne ferai pas mon savant, là. C'est grâce à votre site que je suis maintenant renseigné et que je connais.
Personne de plus.
Ben voilà. La mission fait son petit bout de chemin un peu chaque jour à sensibiliser les gens. Puis ce qui fait en sorte que je pense que c'est pas bête d'en parler parce que les gens vieillissent. On est beaucoup à vieillir en ce moment au Québec. Là, les tranches d'âge et la population vieillissante, c'est la courbe démographique. On n'y échappe pas. Il y a comme un lien, hein, si je comprends bien. Quoi que je vous regarde, vous êtes quand même jeune.
Oui, merci.
Mais vous en avez expérimenté quelque chose. Donc, commençons, si vous voulez bien, par essayer de comprendre pour tous ceux qui nous écoutent, la DMLA, qu'est-ce que c'est?
Bien, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, c'est vraiment lié à l'âge, comme vous l'avez mentionné. C'est une maladie de l'œil. C'est la première cause de cécité fonctionnelle. On n'est pas vraiment jamais dans l'obscurité, mais on perd la vision centrale. Alors, plus que le temps avance, c'est sûr qu'on commence à perdre de nouveaux champs périphériques aussi, mais on va quand même être en mesure de pouvoir voir, peut-être plus en mesure de pouvoir lire, reconnaître un visage, reconnaître, conduire, si on oublie ça. Tout ce qui demande un détail, c'est ce qu'on va perdre, la vision centrale. Alors, c'est une maladie qui atteint majoritairement les aînés. Alors, c'est pour ça que c'est lié à l'âge. Donc, il y a des cas d'exception comme moi qui lui a 46 ans, bagage génétique, j'ai hérité de mes grands-parents. Il y a ma grand-mère paternelle qui avait la DMLA, mais elle est morte jeune, je ne savais pas. Et mon père aussi est décédé jeune. Il ne peut pas me dire, ta grand-mère et ma mère est décédée.
L'info, c'est pas transmise.
Oui, voilà. Donc, alors, quand me diagnostiquer de cette maladie-là, qui est la première cause de cécité, je connaissais pas ça, comme vous. Puis c'est un mélange de consonnes et une voyelle qui va pas ensemble. Tu sais, DMLA, puis en plus, lorsqu'on dit la dégénérescence maculaire, les gens comprennent dégénération masculaire. Là, ils disent, ça ne rapporte pas avec les muscles. Non, non, c'est la vision.
Il y a un branding autour.
Alors c'est sûr que c'était à refaire. C'est pas trop marketing comme nom. Moi, j'aurais modifié ça autrement pour dire, c'est une maladie de l'œil. Première cause de cécité qui atteint majoritairement les aînés. Donc, ça atteint les aînés. Donc, on voit les dernières... Quand on parle d'aînés, c'est 70 ans et plus majoritairement. Mais on voit les dernières années que ça s'est comme un peu devancé. On voit des gens qui sont diagnostiqués avec la dégénérescence maculaire plus à l'entour de 60 ans. Alors, est-ce qu'au niveau des générations futures, comme vous en parliez tantôt, il va y avoir... la maladie va apparaître un peu plus précoce, peut-être, ou c'est la science ou les équipements technologiques que les optométristes ou ophtalmologistes utilisent qui font en sorte aussi qu'ils peuvent détecter vraiment au niveau précoce la maladie.
Je comprends. Puis donc, ça, c'est lié à l'âge. C'est ce qui est plus répandu. Comme du côté de l'oreille, on pourrait penser, par exemple, à la presbyacousie qui fait partie du vieillissement de l'oreille et qui fait en sorte qu'on entend moins. Fait que c'est quelque chose auquel les gens vont être probablement de plus en plus confrontés, vont apprendre à négocier avec, mais encore faut-il déjà savoir ce que ça existe.
Oui, vous avez raison.
Comment ça se... Je ne sais pas si c'est universel, parce que des fois, il y a des maladies ou des conditions médicales qui se manifestent tout de la même façon, puis il y en a d'autres que ça apparaît plus sournoisement, par petit moment, ou par épisode. Comment la DMLA?
C'est vraiment le type d'abord caucasien. Alors, c'est vraiment important. La DMLA, c'est vraiment caucasien. C'est vraiment aussi au niveau des pays qui sont industrialisés. Je vous dirais, il y a des liens, parce que, en fond, c'est là qu'on peut éviter éventuellement ou la retarder, la maladie, sachant qu'elle existe, puis qu'on peut l'avoir.
Déménager.
Ouais. Alors, non, c'est pas qu'on doit déménager, mais c'est une condition de vie, tout simplement. Alors, si vous faites partie des gens des années 70 qui ont abusé du soleil, ou est-ce qu'on mettait même de l'huile pour bronzer, vous êtes à risque. Si vous avez des antécédents de fumeurs, vous avez des parents, père-mère qui ont fait de l'ACV, du diabète, de l'embonpoint, ça c'est tout, ou du cholestérol dans le tapis, ou vous avez ces critères-là, vous avez des gros risques d'avoir la DMLA. Parce que c'est tout ce qui cause la DMLA, en dehors du facteur génétique, comme moi, mais ce sont vraiment des pourcentages de maladies orphelines. Là. Mais d'ordre général, quelqu'un qui a la DMLA aujourd'hui, à 70 ans, il y a des antécédents fumeurs, de cholestérol, de diabète, de haute pression. Ça ressemble vraiment à ça, le portrait. Alors, ce qui fait en sorte que, éventuellement, cette maladie-là pourrait peut-être pas être éradiée, mais quand même être diagnostiquée plus tôt, avec le... Bon, au niveau de la science, peut-être dans 20 ans, ça va pouvoir modifier le code génétique pour corriger tout ça. Mais actuellement, le problème qu'il y a, c'est que c'est vu que c'est une maladie qui touche les aînés, puis la macula, la macula, c'est ce qui fait qu'on voit 98%. C'est vraiment la macula, toutes les couleurs. Ouais, puis c'est gros à peu près comme... vous savez, prenez 25 sous, regardez l'œil du caribou. Alors, c'est environ 5 mm, plus ou moins. Alors, c'est la grosseur de ce qu'on a dans l'œil qui fait ce qu'on voit du côté du champ périphérique. Alors ça va venir vraiment compenser l'image qu'on regarde. Mais le focus, la clarté, tout ça, vient de la macula. Donc, c'est cette partie-là qui est touchée. Et cette partie-là, comment je pourrais vous dire ça, les aînés... déjà en vieillissant, comme vous parliez de la surdité alentour, ben c'est la même affaire. Donc, on va perdre de plus en plus au niveau de la vision. Donc, on a des bâtonnets, des cônes qui nous permettent de voir, qui vont mourir ben dans le vieillissement, c'est normal.
Ben oui.
Mais là, ça va être prématuré à cause de la DMLA. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on vit plus vieux. Alors, dans le cas de ma grand-mère, prenons l'exemple de ma grand-mère qui est décédée à 60 ans, elle est décédée à mon âge, j'ai 60 ans. Ben, elle est morte aveugle, bien entendu, mais... normalement, si elle avait vécu comme aujourd'hui les conditions de vie, là, je vous parle des années 60, là, aujourd'hui, on parle d'une espérance de vie environ de 83 ans chez les hommes, plus ou moins. Là, peut-être que je peux me tromper de quelques pourcentages dans les statistiques. Et chez les femmes, un peu plus.
Ouais.
Mais la différence, c'est que, rendu, si vous êtes diagnostiqué à 70 ans, la maladie, normalement, elle peut s'échelonner environ sur 10-12 ans. Ça, je vous donne un exemple. À 70 ans, vous êtes diagnostiqué avec la DMLA. Il y a des fortes chances qu'à 85 ans, vous êtes dans ces cités pas mal totales où vous ne verrez pas grand-chose. Alors, on peut dire 15 ans. Mais si vous êtes diagnostiqué à 60 ans de DMLA, et normalement, si les conditions, on met les meilleures conditions possibles pour retarder la maladie, à 75 ans, on l'a, ben là, on va être dans la totalité, on va être aveugle indirectement, du moins, on va être vraiment magané au niveau de la vision, mais il nous reste peut-être un autre 10 ans à vivre.
Ben oui.
Et c'est là qu'est le problème. Alors, d'un, le vieillissement de la population, mais de deux, le diagnostic de la maladie, personne n'est au courant parce que c'est une maladie d'aînés. Puis, c'est une maladie, donc en général, on est une société qui protège pas tant que ça. C'est pas viscéral, là, tu sais, de s'occuper de nos aînés.
Non, c'est pas.
Je ne juge pas personne.
On l'a vu dans les dernières années.
Oui, voilà. Donc, donc, ça fait que c'est de plus en plus isolé. C'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes, en Amérique du Nord, du moins, à pourcentage d'environ 10 %, 65 % les femmes et 45 % les hommes. Donc, souvent, les femmes en font beaucoup plus que l'homme en général. Là, je ne veux pas genrer nécessairement, mais c'est un fait.
Oh oui.
La femme va toujours être plus maternelle, de s'occuper de son mari. Puis souvent, l'homme en général, il est content là-dedans. Il est heureux de se faire cuisiner ou se faire prendre soin. Alors, il faut changer ce dialogue-là parce que ça touche les aînés, et majoritairement les femmes, et souvent, eux, sont plus... c'est peut-être le côté maternel là. Donc
oui,
ils parleront pas,
mentale,
ils diront pas qu'ils voient pas, ils diront pas, ils vont continuer toujours de s'occuper du conjoint à titre d'exemple.
Ouais,
alors s'ils étaient au courant de cette maladie là ou du moins leur enfant, ben, il y aurait peut-être un peu plus d'empathie de la société actuellement parce qu'on n'a pas vraiment le côté intergénérationnel. Ça se développe, marquez bien. Là, je généralise. Hein.
Non, mais c'est correct. Ça prend des contrastes pour bien saisir. Ouais. Là. Puis effectivement, si on avait une plus grande sensibilité, ben, comme vous dites, il y aurait un caractère d'empathie qui serait certainement là, puis pas juste mets tes verres, puis tu vas voir comme du monde.
Ben
oui,
puis
ouais.
Arrête de te plaindre, puis tu te plains tout le temps pour rien. Souvent, c'est les aînés ne veulent plus parler. Hein.
Ben effectivement. Puis ça aide pas au dialogue, ça aide pas à aller chercher des diagnostics. Vous avez parlé d'un élément super intéressant, vous avez parlé de ralentir la dégénérescence maculaire. Je comprends qu'il n'existe pas un traitement ou une pilule miracle qui fait comme... OK, on fait un retour en arrière, puis on remet ça dans l'état où c'est qu'est, puis une rétine, de ce que je comprends, on ne peut pas s'en acheter une sur Amazon sans faire importer une nouvelle.
Confusion au niveau de l'œil. Hein. Souvent, les gens pensent qu'on peut se faire greffer un œil. Non, ça ne se greffe pas un œil.
C'est pas
un cristallin, oui, le devant. C'est comme une vitre usée, on peut la changer, les cataractes, mais un œil, ça ne peut pas se changer.
On ne peut pas se changer, donc ça peut pas... donc, dès qu'on a un diagnostic...
Faut prendre ça au sérieux.
Exact, puis le terme condamné est probablement fort, mais est-ce qu'on est condamné à se rendre automatiquement à une pleine cécité à un moment donné? C'est juste une question de temps?
Peut-être. Ça dépend des antécédents de la personne, tout ça. Un ophtalmologiste pourrait plus vous répondre. Ouais. Mais selon mon expérience, oui, surtout qu'on a un diagnostic, il faut prendre ça au sérieux. Et il faut prendre tout ce qu'on a en main pour rattraper, je vais dire ça comme ça, tout l'excédent des années antérieures qui a nuit à notre œil, qui a amené la DMLA. Hein? Souvent, les gens, à titre d'exemple, les gens faire un parallèle, mais... un peu boiteux peut-être, mais quand même, quelqu'un qui a pris de l'embonpoint pendant 20 ans, c'est pas en un an qu'il va le perdre. Ça va peut-être prendre un autre 20 ans pour retrouver son poids, ou sinon il va falloir des conditions particulières pour accélérer cette perte de poids. Ben, c'est la même affaire. Alors, si on a un diagnostic de DMLA, mais ça fait 40 ans qu'on mange du fast-food, Il y a des bonnes chances que la salade ne suffira pas, là.
Oui, c'est ça. Tu ne peux pas juste manger des carottes pour la vue puis penser que ça va faire des miracles.
C'est très bon, oui.
Oui, ça vient d'un ami qui a une perte de vision, fait que je me permets.
Oui.
Mais oui, on peut pas. Donc, on peut ralentir en prenant des meilleures habitudes de vie, une meilleure hygiène de vie. Ça peut aider à.
Absolument, à repousser un peu. Oui, parce que je vous dirais que c'est les mêmes symptômes qu'une maladie de cœur. Quelqu'un qui fait un problème de cœur ou qui est à risque de faire une crise de cœur, c'est le cholestérol. Alors, souvent, le médecin va lui dire écoute, ralentis ou prends une pilule pour ralentir ton cholestérol ou arrête de manger de la viande, tout simplement. Au niveau du sucre, ça va être pareil. Donc, toutes ces maladies de sang, si je vais dire ça comme ça, cardiovasculaires, ils sont amenées à l'œil, puis l'œil se nourrit de sang. Et c'est des petites veines, contrairement à une aorte ou. Une artère, le caillou va passer, ou le gras va passer plus facilement, je vais dire ça comme ça, jusqu'à temps que le boucher. C'est pareil au niveau de l'œil. L'œil, c'est des micro-veines. Donc, le gras, quand il vient passer, il ne peut pas nourrir la plante qui est le bâtonnet ou le cône. Donc, il fait mourir ce bâtonnet et le cône-là. Et on en a des millions, mais à un moment donné, comme je vous dis, en vieillissant, on en perd. Alors, oui, il y a moyen de ralentir et il faut la ralentir.
Ben oui.
Puis, parce qu'on peut vivre autant. Moi, je suis l'exemple. Je ne me dis pas parfait. Je ne voudrais pas jamais dire ça.
Oh, je vais le dire.
Non. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la maladie. Je suis diagnostiqué aveugle d'un œil. J'ai de la dégénérescence musculaire aux deux yeux avancée. Mais je développe des habitudes, tout simplement. Oui, est-ce que je rentre dans les gens par moment? Oui. Est-ce que je fonce dans le mur? Oui.
Ça m'arrive aussi, mais c'est pour d'autres raisons. Mais au moins, il y a donc y a de l'espoir quand le diagnostic arrive. C'est pas une fatalité nécessairement.
C'est pas une fatalité. Mais sauf quand on vous donne un diagnostic comme ça à 70 ans,
ça rentre dedans.
75 ans, ça rentre dedans parce que là, on voit tout de suite qu'on va se faire placer en CHSLD.
Ben oui,
déjà, mes enfants ne me parlent pas. Je ne suis pas au courant c'est quoi la maladie. Beaucoup d'anxiété. Déjà, en vieillissant, les aînés font beaucoup d'anxiété.
Ben oui,
et avec raison, on ne sait pas.
L'isolement des aînés.
Qu'est-ce qui va arriver l'après-vie? En vieillissant, on se pose tous cette question-là. Alors, le fait que nos enfants ne nous parlent plus, que les conditions familiales font en sorte qu'il n'y a pas de visite, ou c'est à Noël, ou au jour de l'an, puis. On est inquiète, donc l'anxiété est dans le tapis. Là, on vous diagnostique une maladie de plus, parce que les aînés, on s'entend, on est fait de chair, donc en vieillissant, tout sort.
L'humidité rentre dans les os et tout ça, mais au-delà de tout ça, il y a effectivement cette réalité-là, puis on le voit avec tous les organismes qu'on a reçus, on le voit à quel point les aînés sont de plus en plus isolés. On n'est plus dans des grandes familles avec 25 enfants, donc si jamais il y en a 10 qui ne nous parlent pas, c'est pas grave, il en restait d'autres. Là, avec un seul enfant, s'il ne nous parle plus, on vient isoler rapidement.
Et souvent, c'est pas parce qu'il est arrivé un drame familial qu'il y a une chicane. C'est juste qu'ils ont leur propre famille. Et là, c'est déjà complexe aujourd'hui. Les deux travaillent, les coûts de la vie excessivement chers. Donc, il y a un oubli qui se fait naturel, mais il est compensé par un appel Zoom ou par le téléphone, mais c'est pas suffisant pour sécuriser les aînés.
Pierre Brisebois, c'est franchement intéressant. On en apprend énormément sur la DMLA. Ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause. Puis après, on va aller parler, bien évidemment, de la Fondation.
La Fondation,
sur pied tout de suite après. Reste à l'écoute. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Pierre Brisebois, président et fondateur de la Fondation DMLA. En première partie de l'émission, évidemment, on a pris le temps de comprendre de quoi on allait parler. La DMLA est arrivée dans votre vie en 2009, puis a évidemment changé votre vie, ça va de soi. Il arrive des maladies, il arrive des situations dans la vie de tout le monde. Ça change nos vies, mais ça ne change pas nécessairement la vie au fait qu'on va partir une fondation pour le faire, mais je pense que le vide d'information a certainement été une grande locomotive pour donner ce goût-là, mais pourquoi avoir parti ça?
Ben, parce qu'il y avait un vide, tout simplement. Déjà. Bon, moi, cette maladie, j'ai eu à 46 ans, précoce. Je me suis aperçu quand j'avais la maladie que ceux qui étaient atteints, c'était les aînés, 70 ans, des dames surtout. Majoritairement des femmes qui étaient laissées eux-mêmes, puis il n'y a personne qui faisait rien. Il y avait différentes associations canadiennes comme provinciales qui donnaient un coup de main quand même, mais encore là, c'est des aînés, c'est pas évident de mobiliser des aînés. Les aînés actifs, oui, sont mobilisés, mais souvent la maladie allait chercher les moins actifs à cause du passé, comme je vous dis, de la dégénérescence maculaire qui fait qu'on ça va avec notre nutrition, en tout cas, ouais. Ça pour dire sans juger personne. Mais donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit, mais ça se peut pas. Puis j'ai dit, mais qui en parle? Personne n'en parlait. Moi, je suis père de 4 filles. Je sais que je l'ai, c'est à cause de ma grand-mère maternelle. Je sais que j'ai le gène que j'ai donné à mes filles, que mes filles se font régulièrement vérifier. À date, ça se passe bien. Mais je sais qu'il y a un risque majeur que mes filles soient un jour qui souffrent de cécité aussi fonctionnelle. Et je me suis dit, mais non, je peux pas vivre dans mon quotidien sans... en laissant un héritage sans que j'ai pu essayer de changer quelque chose dans la part que je peux faire, bien entendu, pour changer cette maladie-là. Et je me suis dit non. Là, j'étais un coureur. Il y avait Pierre Lavoie qui inspirait beaucoup au niveau de la course, en lien avec ses enfants qui sont décédés d'une maladie orpheline. Bon, il n'y avait pas de décès dans le cas de moi, mais je me suis dit, mais j'étais déjà un coureur. Donc, je me suis dit, je vais faire une levée de fonds. J'ai fait ça pour le CHUM. La première année, je fais ça pour le CHUM. J'ai fait le marathon de Montréal. J'ai appelé mes chums. On a fait une levée de fonds d'à peu près presque 3 500 $, 4 000 $, je me souviens pas. Plus ou moins, là. Et j'ai remis ça au CHUM. L'année d'après, je l'ai fait pour un. J'ai dit, mais si moi, je peux faire ça tout seul, alors imaginez si tous les coureurs pouvaient faire une levée de fonds, peu importe le montant, de 2 $ à 1 000 et plus, ça va faire la différence. Donc, l'année suivante, on a remis 33 000 $. Donc, j'ai lancé le défi des MLA, qui était une course et une marche pour sensibiliser les gens à la maladie. Suite à ça, bon, j'ai remis 33 000 pour la recherche, mais je me suis aperçu que 33 000 pour la recherche, parce qu'on est une petite fondation, hein, tout c'est bénévole, puis c'est fait à temps partiel, on essaye, même si on est en plein là-dessus, c'est du temps partiel, oui. Parce que bon, il n'y a pas de rémunération, mais il faut manger, donc c'est normal.
C'est ça, faut
donc ça fait en sorte que j'ai dit, mais le 33 000 pour la recherche, c'est vraiment rien, là, c'est un grain de sable, pas dans l'univers, mais dans plus large que ça encore. Donc je me suis dit, mais comment je peux aider, comment je peux faire qu'on peut aider quelqu'un qui pris avec la DMLA, je me suis dit, d'abord, on peut les informer, c'est ça le but en premier, c'est de sensibiliser. Après ça, c'est leur montrer comment qu'on peut bien manger, faire quelques exercices, puis où est-ce qu'ils se trouvent, parce que l'œil, étant donné que j'étais un coureur, je savais que j'avais besoin des nutriments pour donner des muscles à mes jambes, l'énergie. Oui. Donc, c'est une question, tout quelqu'un qui s'entraîne comprend qu'il prend tel aliment, mais là, l'œil a besoin de nutriments. Alors, je me suis dit, on va faire un programme qui va informer les gens, pas quoi manger, parce qu'on n'est pas des nutritionnistes, mais plutôt, où est-ce qu'ils sont les vitamines que l'œil a besoin? Donc, on a lancé le programme Vision, exercice et nutriments, qui est entre autres. Donc, on a fait ça avec la Fondation. Et là, à partir de là aussi... Lancer une fondation, c'est pas évident, c'est pas aussi facile. Ça s'appelait Fondation Pierre Brisebois au début, mais Pierre Brisebois, c'est pas comme Guy Lafleur, moi, qui est décédé du cancer, malheureusement, mais au moins qu'on peut l'associer à une maladie.
Oui,
mais,
on comprend.
S'il y avait une fondation Guy Lafleur, on dit, c'est pour le cancer.
C'est pas que vous êtes pas connu comme Barabas dans Passion.
Non,
mais...
personne ne me connaît, mais ça va. Donc, ça disait rien. Donc, on a lancé ça pour Fondation DMLA. Et la Fondation DMLA est venue suite. Puis, on est aussi le RMD Foundation, parce qu'il fallait aussi le prendre en anglais, aller le chercher. Donc, là, j'ai lancé la fondation. En se levant les manches, puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc, on a remis pour la recherche, on a lancé le programme Vision, qui est VEN, qui est présenté dans les résidences pour aînés, pour expliquer c'est quoi, et ainsi de suite. Et on a lancé le programme des... vous devez comprendre que l'Institut Nazareth-Louis-Braille, ou M.A.B. Mackay, ou tous ces organismes-là qui viennent en aide à ceux qui, avec des programmes, puis c'est parfait, là. Sauf que dans DMLA, il y a comme une petite zone grise, hein? C'est une maladie d'aînés, c'est une maladie qu'on voit encore, mais on ne voit pas tout bien. Donc, avant que ces institutions-là puissent prendre en charge une personne atteinte de DMLA, souvent, cette personne-là est quasiment dans cécité totale. Donc là, il y a un risque d'accident chez elle. C'est là qu'ils vont intervenir. Mais l'entretemps, si vous préférez, il y a des priorités ailleurs avec des cécités complètes, tout ça. Bon, et c'est comprenable. Puis c'est une question de budget aussi qu'ils ont. Là, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de combler le manque? Alors, je me suis aperçu que l'Institut Nazareth-Louis-Braille, comme M.A.B. Mackay, et ainsi de suite, pouvait donner des lunettes, mais des lunettes de prescription, des lunettes parce que ça fait partie des offres de services, mais vous devez comprendre aussi, je dis souvent ce mot-là, mais que la DMLA, on ne tolère pas la lumière. On ne tolère pas le soleil. Toute la lumière qui est trop forte, notre distorsion va s'amplifier.
Avec les petites lunettes UV de la pharmacie, là, ça ne doit pas être un grand succès, j'imagine.
Il faut faire attention. Si c'est des reconnus UV avec une certification, vous êtes correct. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quand vous mettez des lunettes, c'est un peu comme un petit gars, on se cachait devant le miroir. Si on s'ouvrait, on regardait la pupille grossir. Bon, c'est pareil. Alors, si je mets des lunettes, exemple, de soleil, ombré, alors ma pupille va ouvrir. Mais si la vitre n'est pas 100% UV,
la pupille ouvre, mais...
les rayons UV vont rentrer, ils vont venir tout de suite attaquer la macula. Donc, il faut avoir des lunettes vraiment certifiées et polarisées, parce que polariser, c'est important, parce que le reflet du soleil sur les autres surfaces, soit sur un véhicule d'auto, une lumière, pas une lumière, un pare-brise, sur la neige, sur la pluie. Bon, mais ça, c'est amplifié. Alors, vraiment, le polarisé va vraiment adoucir ça aussi, pour éviter des mal de tête. Donc, on s'est dit, il y avait un manque là. Donc, on a lancé le programme de lunettes. On donne des lunettes de soleil gratuitement qui sont protection UV et polarisées, qui peuvent être mises par-dessus des lunettes. Bon, c'est pas des lunettes Ray-Ban, on s'entend. C'est des lunettes d'une valeur à peu près 40 $ sur le marché. Mais quand même, on les donne gratuitement. Depuis la pandémie, on est obligé depuis la pandémie, on est obligé de charger un frais de livraison qui est de 20 $ C'est pas parce qu'on veut faire des solutions, on ne fait pas de sous. C'est que le prix de Post Canada est rendu là. Mm-hmm. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, les levées de fonds qu'on fait, c'est pour payer les lunettes, bien entendu, payer le déplacement, exemple, pour aller dans les résidences et le site Le Maculaire qu'on a lancé.
Ben parlons-en du site Le Maculaire. Donc, c'est un web magazine.
Un web magazine, voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas l'imprimer. On n'a pas les sous pour le faire. Et puis, en plus, il faudra avoir la distribution.
Ouais, mais bon, l'industrie de l'imprimer ne va pas si bien que ça.
Oui.
Donc, voilà.
Alors, c'est un web magazine parce que moi, je voulais vraiment trouver quelque chose en français qui nous rejoint et qui puisse expliquer c'est quoi la maladie. Ouais. Démystifier la maladie parce que DMLA, ce n'est pas marketing du tout. Puis, quand on est diagnostiqué, on mélange les mots, comme je disais tantôt. Donc, ce magazine-là explique vraiment c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. D'abord mondialement, mais qu'est-ce qui se passe ici localement, mais aussi c'est quoi la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder la maladie, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans notre quotidien pour bien manger, comme je disais tantôt, les vitamines, où est-ce qu'ils sont. Alors il y a tout de A à Z sur la DMLA, connaître la maladie, parce qu'il y a des niveaux de maladie de DMLA précoce comme avancée, mais on a des figures aussi qui démontrent aussi bien ça, il y a des vidéos aussi explicatives qui expliquent c'est quoi la maladie, qu'est-ce que ça a l'air, on peut-tu vivre avec, parce que le but en arrière, surtout le but de la fondation DMLA, c'est de faire sensibiliser les gens à la maladie, c'est sûr, mais c'est de dire que pas parce que vous êtes atteint de cécité que vous êtes plus bon. Au contraire, vous allez apprendre à travailler différemment. Est-ce que ça va prendre plus de temps? Oui, sûrement. Puis sensibiliser la famille. Donc, ce web magazine-là fait à peu près tout. Je pense qu'il est assez complet. Puis on le met à jour quasiment au quotidien sur les nouvelles parce qu'il y a beaucoup de charlatans à travers le monde. Là.
Oui, effectivement. Puis on réalise à quel point sur le web, des fois, c'est difficile de trouver le vrai du faux. Puis docteur Internet n'est pas toujours le meilleur allié, mais d'avoir une source fiable d'information. Mm-hmm. Quand on vient de recevoir un diagnostic, puis en plus, ça s'adresse davantage à une population aînée, bien, d'avoir une facilité d'accès, là, je pense que c'est hyper pertinent. Et en tout cas, félicitations pour le web magazine, là, pour avoir parcouru. Et je vous invite à le faire, là, que vous soyez touché ou pas par la maladie. Je pense qu'on n'est jamais assez instruit et sensibilisé. Puis comme on se dit, avec la population vieillissante, les chances sont de plus en plus grandes de connaître quelqu'un finalement qui va devoir naviguer avec ça.
Et souvent, dans les conférences qu'on fait dans le programme VEN, dans les résidences pour aînés, souvent, c'est ce qu'on va dire. Est-ce que qui connaît la maladie? Puis moi, je m'amuse. Quand c'est moi qui ai fait, je m'amuse parce que j'aime ça faire ça parce que je suis un passionné. Puis je suis content de sensibiliser les gens à cette maladie-là. Mais je donne un exemple. Il y a 40 aînés devant moi, différents âges, mais 65 ans et plus. Là, je dis, levez la main, ceux qui savent c'est quoi la maladie. Non, puis il n'y a personne. Une fois, il y en a un qui lève ou elle parce qu'elle sait qu'elle l'a ou elle ne l'a pas dit. Elle ne veut pas faire son coming out. Elle ne veut pas dire que si je rentre dans le monde, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Parce que si, faut le sortir. Mais elles ne le disent pas. Alors là, je leur dis, mais c'est une maladie qui vous touche, vous, les aînés, et vous n'êtes pas au courant. Puis je leur donne comme exemple souvent, quand l'automne arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je les fais parler. Alors souvent, ils vont dire, quand l'automne arrive, je mets une veste parce que je sais que je peux attraper un rhume. Mm-hmm. Bon, mais parce que vous savez, c'est quoi un rhume? Oui. Mais si je vous dis la DMLA, vous ne savez pas c'est quoi, puis c'est la première cause de cécité, aimeriez-vous ça? Pas être en mesure de pouvoir tout le bricolage que vous faites dans une semaine, être plus capable de le faire? Et parce que là, je veux vraiment les toucher. Là. Des fois, ils me trouvent dur, là, mais et là, ils vont dire, c'est ça. Là. Alors, si vous avez des dégénérescences maculaires, vous ne pourrez plus faire ça. Donc, c'est sérieux, là. Là, ils m'écoutent un peu plus. Et donc, ça fait en sorte qu'on les sensibilise. Et là, à partir de là, mais moi, c'est les enfants. Bon, maintenant, avant la pandémie, on faisait des fois les marchés comme Atwater, Chantal. On peut expliquer. Gratuitement, là, pendant que ma conjointe pouvait faire des emplettes. Habituellement, c'est moi qui ai fait, mais là, dans ces situations-là. Mais de sensibiliser les gens. Mais sensibiliser les enfants puis les petits-enfants.
Ben, tout à fait.
Oui, alors, bref, c'est ça.
Tout à fait. Quand on parle de la DMLA... Il y a des maladies qu'on sait qu'il faut surveiller certains signes avant-coureurs, qu'on a des symptômes qui apparaissent. Je lisais ça, puis en même temps, je me trouvais bien niaiseux parce que je comprenais rien. Le premier signe clinique de la DMLA est la découverte de druses, qui sont des dépôts acellulaires focaux de débris polymorphes entre les pigments rétiniens et la membrane de Bruch. J'ai rien compris de ce que je viens de dire.
Vous avez raison, c'est très compliqué. Alors, c'est un langage ophtalmique. L'ophtalmologiste va vous dire ça tout de suite, va comprendre.
Ben oui, alors, j'imagine.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que, étant donné que la veine, je vais vous résumer. C'est la veine qui nourrit la plante. On va penser à une plante. Pensez à une plante que vous.
À date, je vous suis.
Alors, vous avez une belle plante que vous mettez dans un terreau, c'est ça? Ou dans le sol, tout simplement. Et que la plante, ben, vous apercevez qu'elle meurt tranquillement, pas vite. Donc,
ça, je suis bon avec des plantes qui meurent.
Alors, votre déduction va dire, ben ça y est, au niveau du terreau, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais.
Ou il y a quelque chose dans le sol qui, bon, ben c'est ça. Dans votre sang, elle va faire mourir la base de votre plante parce qu'elle est contaminée au cholestérol, à la haute pression. Et cette cicatrisation-là, je vais dire ça comme ça, laisse un dépôt. Là, je caricature, là, mais pour vous donner une idée,
pour faire
mourir la plante. Mais la plante, là, c'est votre vision. C'est un des capteurs qui fait que vous voyez la fleur. Alors, étant donné que le terreau n'est pas bon et qu'il va mourir, ben là, il se fait un dépôt. Alors, ce dépôt-là, ça s'appelle un druse ou un drusène. Alors, mais ça, vous ne le voyez pas à votre œil. C'est l'optométriste ou l'ophtalmologiste qui va vous diagnostiquer ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Quand je regarde, là, qu'est-ce que ça fait? Alors, vous ne tolérez pas la lumière, exemple. Ah. Ça, c'est des signes avant-coureurs. Vous avez la difficulté avec tout ce qui est l'éclairage aujourd'hui, là, l'éclairage extérieur. Là, vous supportez ça, vous ne supportez pas, vous fermez les yeux tellement que vous trouvez ça agressant. Vous apercevez que tout ce qui est à l'horizontale ou la verticale ondule. Je vous donne un exemple. Vous regardez un cadre de porte, vous regardez un cadre sur le mur.
Ouais.
Vous avez l'impression vraiment qu'il est un peu convexe ou concave. Okay. Il y a quelque chose qui ne va pas, que ça ondule. Ça, c'est des signes avant-coureurs de DMLA. Bon. L'humain est bien fait, c'est-à-dire que votre œil qui est atteint, on commence toujours par un œil, l'autre œil, le cerveau va compenser. Okay. Donc, pour vérifier, il faut fermer un œil. Et c'est souvent le diagnostic va se faire que lorsque quelqu'un, bon, il y a une poussière dans l'œil, il se ferme l'œil, il dit, qu'est-ce qui se passe avec l'autre œil, ou vice-versa. C'est souvent là que le diagnostic est. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est, bon, concrètement, c'est ça, mais il faut surtout regarder son passé. Je fais-tu du cholestérol? Oui, j'arrive-tu à un âge 40 ans? Nous, on a travaillé beaucoup avec l'Association d'optométrie du Québec pour sensibiliser les gens à, chez l'homme, le cancer de la prostate à 50 ans, le médecin de famille va dire tout de suite, écoute,
ben oui, ça va de soi.
Ben la femme, cancer du sein au début quarantaine. Mais ben nous, ce qu'on veut, c'est qu'à 50 ans, l'optométriste lui dise, ou le médecin de famille lui dise, allez donc voir votre optométriste. Peut-être à vous, ou s'il voit que son patient a du cholestérol, lui dire qu'il y a d'autres maladies que les crises de cœur qui sont reliées à son cholestérol. Ben il pourrait perdre la vue.
Pierre Brisebois, vous faites un travail extraordinaire de vulgariser tout ça, déjà, parce que vous avez bien compris que j'avais rien compris. Maintenant, c'est clair.
Merci.
Votre mission, elle est primordiale parce que c'est pas anodin. C'est quand même, ça change la vie, change la vôtre. Certainement, vous êtes très fonctionnel, mais ça change la vie. Merci de le faire. Merci de non seulement avoir pris le diagnostic, mais d'avoir parti une fondation qui répond certainement à un besoin. Les gens qui veulent plus d'informations, je vous invite vraiment à aller visiter fondationdmla.com. Et comme le disait M. Brisebois, ben il y a des besoins, clairement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de soutenir cette organisation-là, de le faire.
Merci.
Sinon, ben merci, M. Brisebois, d'avoir été avec nous. Très intéressant. Et le temps passe très vite en votre compagnie, clairement. Alors,
merci.
Je vous invite à
Merci
vous.
À vous.
Merci.